Chers frères et sœurs, nous voilà arrivés dans les dernières phrases de ce texte magnifique du Credo. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Ça tombe bien, c'est ce que nous vivons ce matin avec Aymeric. Eh bien, pourquoi il y a un seul baptême, une seule fois, dans une vie ? Parce que quand Dieu donne, il donne. Il ne reprend jamais ce qu'il donne. Aussi, c'est une grave offense au Seigneur que de parler de rebaptiser. Dans l'histoire de l'Église, jamais, jamais l'Église n'a admis une chose pareille. Quand Dieu donne, c'est pour toujours. Aymeric, entre dans la joie de ton maître, c'est pour toujours. Et la toute dernière phrase du Credo dit « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». Vous avez remarqué, frères et sœurs, le Credo, c'est « je crois, j'attends ». Ben, y a un lien. C'est « si je crois vraiment, alors j'attends ». « Si je crois pas vraiment, j'attends moyennement ». On entend souvent chez les chrétiens « le plus tard sera le mieux ». Ah bon ? Et donc, je crois, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Cette vie du monde à venir, vous savez que nous ne l'attendons pas simplement post-mortem, après la mort. Nous l'attendons pour maintenant. C'était la découverte de la petite Bernadette Soubirous que nous avons fêtée cette semaine. Quand la Vierge Marie à Lourdes lui dit « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans cette vie, mais dans l'autre », au départ, la pauvre petite s'est crue condamnée au malheur à perpétuité sur la terre. Et puis, elle s'est ressaisie, elle a compris. L'autre vie, l'autre monde, est déjà commencé sur la terre, pour peu que nous le voulions bien, que nous l'accueillions vraiment. Cette autre vie, cette vie avec Dieu, plus encore, cette vie en Dieu, c'est exactement ce que Jésus nous décrit dans l'évangile d'aujourd'hui. Aimez vos ennemis, souhaitez du bien à ceux qui vous persécutent, etc., etc. Mais enfin, tout ça nous dépasse complètement. Mais ça, c'est l'autre vie. C'est la vie en Dieu. Frères et sœurs, n'allez pas penser deux minutes qu'il s'agisse d'une fable, d'un mythe, du vent. Au contraire, c'est tangible, c'est réel, c'est concret. Et nous en avons eu encore cette semaine un exemple magnifique à travers cette figure de Guy Coponnet. Certains l'ont entendu, cet homme de 92 ans, qui est-il ? Un paroissien tout ordinaire de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui était là le 26 juillet 2016 avec son épouse Jeannine à la messe du Père Hamel avec trois religieuses, une petite messe de semaine en plein été, avec peu de monde. La messe se déroule comme d'habitude, mais à la fin de la messe, la porte s'ouvre violemment entre deux hommes, qui commence par mettre dans les mains de Guy Coponnet un appareil pour filmer. Ensuite, ils s'en prennent au Père Hamel, qui est encore assis sur son banc. Ils le mettent à genoux et commencent à lui planter des coups de couteau. Le Père s'effondre par terre et tente de repousser avec le peu de force qui lui restait les deux hommes qui arrivent. Et il leur dit « Satan, va-t'en ». Encore une deuxième fois, il trouve la force de donner cet ordre, dit Guy Coponnet. Il répète « Satan, va-t'en ». Mais à ce moment-là, le sang s'est mis à vomir, dit Guy Coponnet, et le père n'a plus bougé. Pour lui, c'était terminé. À ce moment-là, la voix de Guy, qui a témoigné cette semaine devant la cour d'assises spéciale de Paris, s'étrangle d'émotion. Il dit « Quelle souffrance a vécu le père ?» Il raconte à la cour d'assises, vous savez, le vendredi saint, les catholiques font le chemin de croix autour de l'église. Je continue à y aller, à chaque fois, mais les deux dernières stations, je ne peux pas. C'est exactement ce qu'a vécu le père. Ils l'ont massacré. Ensuite, les deux hommes s'avancent vers Guy et lui disent, c'est ton tour maintenant. Ils le saisissent, ils le mettent sur l'estrade et en voyant le premier qui s'approche, Guy lui dit « Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tuer ton grand-père ?» Et là, il reçoit une pluie de coups de couteau dans le bras, le thorax et la gorge. Il le jette en bas de l'estrade. Guy, à moitié conscient, a le réflexe de se saisir la gorge. Et là, la cour l'interroge. « À quoi pensiez-vous à ce moment-là » Et lui, il dit « J'étais pris dans un tourbillon de prières. C'était comme pour moi une retraite spirituelle. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait et j'ai pensé à là où maintenant je pouvais aller. » Il récite des « Je vous salue Marie » Les minutes passent longuement et au bout d'un « Je vous salue Marie », alors qu'il dit « Maintenant et à l'heure de notre mort » et qu'il n'en peut plus, il aperçoit les secours et la police qui arrivent. Il est hospitalisé, opéré plusieurs fois. Les médecins du CHU de Rouen sont saisis par la résistance physique de cet homme à la souffrance. Le procureur lui redit que lui aussi, il est étonné de sa résistance physique et de sa résilience devant un tel drame. Frères et sœurs, à ce moment-là, on interroge Guy Coponnet en lui disant « Pourquoi avez-vous accepté d'être partie civile dans ce procès et de venir témoigner ?» Réponse de Guy. Pour que ceux qui ont commis ou organisé de telles horreurs puissent venir demander pardon à ceux à qui ils ont fait de la peine. Ce serait, disait-il, un tel rétablissement de communauté, parce que sinon ça devient de la haine et c'est invivable. Frères et sœurs, c'est quand même saisissant. Guy Coponnet, quand on l'interroge, à qui pense-t-il ? De qui est-il tout préoccupé ? Non pas de sa souffrance à lui, encore moins de sa rancune, ça fait longtemps qu'il a pardonné. Mais il se préoccupe en revanche de ceux qui ont commis ces actes, pour que eux aussi puissent faire l'expérience libératrice du pardon, que eux qui sont partis du côté de Satan puissent revenir dans la lumière du Seigneur. Son cœur, à ce Guy Coponnet, a tellement été dilaté par la grâce par le Seigneur qu'il est tout préoccupé du salut des bourreaux, des terroristes. Voyez jusqu'où s'étend la charité chrétienne. Croyez-moi, tout le monde a été saisi dans la cour de justice. D'ailleurs, il y a une avocate générale qui lui dit « Vous savez, vous m'avez complètement bouleversé et touché par votre témoignage. » Et Guy, qui ne se prend pas pour un héros, a répondu ceci « Je n'y suis pour rien, vous savez. Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi tout ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, dit Guy. Ses paroles résonnent et s'envolent dans la salle d'audience dans un silence solennel et respectueux. Et il termine ces mots de Charles de Foucault en disant « C'est un besoin d'amour que de se donner, dit Guy. Voilà le moteur, voilà la force. Je n'y suis pour rien. » Magnifique. Il y a eu un autre moment de lumière, c'est quand un autre avocat général lui demande comment il vit maintenant au quotidien, s'il a réussi à retourner à la messe. Et il dit « Oui, oui, même en semaine, j'y vais. Mais depuis l'an dernier, j'ai perdu mon épouse. J'y vais seul. Enfin, presque seul, ajoute-t-il dans un sourire. Parce qu'à la messe, on reçoit une présence, la présence. C'est le Seigneur qui est là. Après la messe, en rentrant, je passe par le cimetière et le Seigneur est là. Et je prends un temps en présence avec elle. Je la retrouve, son épouse bien-aimée, Jeannine. Et le Seigneur est là. C'est un moment qui me donne de la liberté. C'est l'amour. » Frères et sœurs, Guy, par ses simples paroles, nous rend tangible la vie du monde à venir. Il nous donne de comprendre à quel point cette vie du monde à venir est déjà commencée sur la terre. Elle nous unit puissamment à ceux qui sont déjà pleinement du côté de Dieu, à nous qui sommes encore en pèlerinage ici-bas. Seigneur, ce matin, nous te demandons la même grâce que Guy. Viens dilater chacun de nos cœurs, nous réjouir de ta présence, afin que nous ayons nous aussi la grâce d'aimer intensément, de pardonner largement et de nous abandonner entre tes mains totalement. Amen.